un guide pratique pour aider à la formation des assemblées de l'Église du Christ, là où il n'en existe pas. Comment fonder une assemblée de l'Église du Christ chez vous, partie 3 sur 3. Dans cette réjouissance qui accompagne le salut, le nouveau chrétien cherche à savoir comment adorer et louer ce Dieu de miséricorde infini. L'homme est, de par sa nature, un adorateur. Il n'est pas nécessaire de lui dire d'adorer. Il faut cependant lui expliquer comment le faire. Qui peut adorer? Une personne qui devient chrétienne peut adorer Dieu dans la solitude. Il n'est pas nécessaire d'être à plusieurs pour communier avec Dieu. Quand deux ou plusieurs, dans un même endroit deviennent membres de l'Église, au lieu de s'isoler, ils doivent se réunir et adresser leur culte à Dieu en communauté, ils forment ainsi une assemblée de chrétiens qui décident comment se déroulera le culte. Puisque Dieu est l'objet de notre adoration, étant seul digne d'être loué, c'est à lui qu'appartient le droit de nous expliquer comment et quand le culte doit lui être rendu. C'est Dieu, et non pas l'homme, qu'il faut adorer. C'est Dieu, et non pas l'homme, qui doit donc approuver le culte. Ce qui est agréable à l'homme, ou ce que l'homme pense être agréable à Dieu, peut très bien être une abomination. Devant Dieu, Luc 16h15, tout acte de louange offert à Dieu doit s'harmoniser parfaitement avec la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans sa parole, Jean 1h17, Jean 4h24. Faire ce que Dieu n'a pas autorisé, c'est agir comme si Dieu ne sait pas ce qu'il désire imposer. Ce que Dieu n'a pas ordonné laisse la fausse impression que l'homme peut suppléer là où Dieu n'a pas parlé. Toutefois, rappelons-nous que la Bible est la révélation de la volonté de Dieu. Ses enseignements, aussi bien que son silence, doivent être pris comme la manifestation de cette volonté divine. Dieu a fixé lui-même les normes du culte qui lui est agréable, tant par des ordonnances précises que par l'exemple des premiers chrétiens, selon le Nouveau Testament. Tout culte fondé sur des préceptes qui sont des commandements d'hommes, est considéré comme par Dieu. Matthieu 15, 9. Il y a cinq parties du culte biblique. Toutes les assemblées de chrétiens dont parle le Nouveau Testament offraient un culte identique. 1 Corinthiens 7h17, aussitôt convertis. Selon les actes des apôtres, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, actes des apôtres 2h42, se servant de ces moyens pour adorer Dieu, ils se réunissaient régulièrement, dans un contexte profondément spirituel et fraternel. Le culte chrétien doit s'ordonner aujourd'hui de la même façon. En effet, vouloir adorer Dieu d'une autre manière serait agir contre sa volonté. Ce serait insulter Dieu que de lui offrir une adoration composée de préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 9. Il y a cinq parties dans le culte qui plaît au Seigneur. Nous chantons la manifestation naturelle d'un cœur heureux et le chant. Jacques 5h13, les premiers chrétiens chantaient à la gloire de Dieu dans leur culte. Éphésiens 5h19, ils se servaient des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels pour exprimer à Dieu les sentiments de leur cœur. Colossiens 3h16, 17, les instruments de musique ne s'y trouvaient jamais, selon toutes les indications bibliques et autres. Ils composaient leurs propres cantiques, en se basant sur les psaumes de David ou sur d'autres passages bibliques. Dans plusieurs endroits du monde, il existe des recueils de cantiques pour aider les chrétiens à chanter. Mais faute d'une telle aide, il est toujours possible de faire comme ses premiers disciples, adaptés à la musique. Des psaumes, des versets ou des thèmes bibliques. Nous prions, la prière est le moyen par lequel l'homme parle à Dieu. Quand on prie selon la volonté de Dieu, il nous écoute, 1 Jean 5h14, et nous exauce. 1 Pierre 3h12, prier ne veut pas dire s'attaquer à une résistance de la part de Dieu. Il s'agit plutôt de lui témoigner notre confiance en lui et notre dépendance de lui. Il faut toujours prier avec foi, croyant que Dieu répondra à notre demande. Mais il faut dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, Luc 22h42, nous devons prier au nom de Jésus, car c'est lui notre médiateur auprès de Dieu. 1 Timothée 2, 5, Éphésiens 5h10. Nous étudions, l'étude des Écritures représente une forme très exaltée d'adoration. Le désir de connaître la volonté de Dieu afin de l'accomplir apporte sa plus grande bénédiction. Jean 17h17, le Saint-Esprit qualifie de l'esprit de ceux de Béré parce qu'il accoute des apôtres 17h11-12. Nous donnons, c'est rendre un culte à Dieu de donner de nos moyens matériels lors de la collecte dominicale. L'Église de Philippe envoyait de l'aide à l'apôtre Paul pour lui permettre de prêcher l'Évangile, et celui-ci parle de leurs gestes fraternels communs, parfum de bonne odeur, Philippiens 4h15-19, en versant de nos moyens. Nous assistons dans la prédication de l'Évangile, et nous permettons d'aider ceux qui sont dans le besoin. 1 Corinthiens 16, 1 à 2, en outre, cet argent peut servir à la location ou à l'achat d'un local où l'Église se réunira, ou à l'achat de Bibles, de brochures, de traités, etc., afin de diffuser l'Évangile dans l'entourage. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. 11 Corinthiens 9, 7, Dieu considère nos offrandes comme une preuve de la sincérité de notre amour. 11 Corinthiens 8, 8, le Juif, sous la loi de Moïse, était tenu de donner un minimum de 10% de tout ce qu'il possédait en haut. Seigneur, Dieu ne fixe pas de pourcentage pour le chrétien. Il compte sur sa reconnaissance et sa générosité. Il exige seulement de lui qu'il donne, Romains 12, 8, et selon sa prospérité, 1 Corinthiens 16, 2. Nous participons à la Sainte Cène. La Sainte Cène est une occasion solennelle. Jésus institua ce repas commémoratif en souvenir de ses souffrances et de sa mort pour nos péchés. Chaque chrétien, sans exception, participe à la Sainte Cène chaque dimanche, sans exception, en mémoire du sacrifice de Jésus-Christ pour les péchés du monde. Dans ce repas du Seigneur, chaque chrétien prend un morceau du pain. Sans levain, il suffit d'un petit morceau, en mémoire du corps de Jésus. Ensuite, il boit quelques gouttes du jus de raisin ou de vin rouge, en mémoire du sang de Jésus. Matthieu 16h26-29. 1 Corinthiens 11h23-24. Lors du culte dominical, un chrétien, n'importe quel homme, fidèle et dont la conduite est exemplaire, distribue le pain, après avoir rendu grâce à Dieu et rompu le pain en morceaux, puis le jus de raisin, ou vin rouge, après avoir également rendu grâce. Le repas du Seigneur est observé chaque dimanche, Actes des Apôtres 20, 7, Actes des Apôtres 2h42, c'est le seul jour consacré pour la Sainte Cène. Celle-ci ne peut être célébrée un autre jour de la semaine. La signification de la Sainte Cène est clairement indiquée par le Seigneur quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». 1 Corinthiens 11h25, le pain est une communion au corps de Christ. Christ, 1 Corinthiens 10h16. Le repas du Seigneur n'enlève pas le péché, mais il sert à annoncer la mort du Seigneur au monde. C'est donc un témoignage puissant de notre foi en Christ et en son sacrifice pour nos péchés. C'est certainement un péché que de manquer volontairement les réunions avec nos frères et sœurs en Christ, surtout celles où le repas du Seigneur est observé. Hébreux 10h25-26, si l'on était malade et ainsi incapable d'assister à la réunion du dimanche, le premier jour de la semaine Actes des Apôtres 20, 7, on pourrait exceptionnellement observer la Sainte Cène chez soi. Comment faire vous-même le pain sans levain pour le repas du Seigneur? Dans le repas du Seigneur, le pain sans levain est employé parce que ce fut à la fête des pains sans levain, Matthieu 26, 17, que Jésus institua ce repas commémoratif. Jésus et ses disciples étaient à la table et il prit du pain sans levain, rendit grâce, le rompit et le distribua à ses disciples. Matthieu 26, 26 à 29, c'est pourquoi cette sorte de pain sert aujourd'hui dans la Sainte Cène. Le pain sans levain est facile à préparer, quand on ne peut pas en acheter chez le boulanger, ou dans une épicerie juive, où il s'appelle pain ou deux ingrédients les plus communs, sont employés dans la fabrication de ce pain qui doit servir dans le repas du Seigneur. Pour préparer ce pain, mélangez un peu de farine avec une petite quantité d'eau, d'huile, ou beurre, et de sel. Travaillez la pâte jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie, ou une bouteille, pour la réduire en une feuille mince. La mettre ensuite au four, assez chaud, pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Bien entendu, aucun produit susceptible de faire lever la pâte, levain, levure chimique, etc., ne doit y être ajouté. Comment se procurer le fruit de la vigne? Pour la Sainte Cène, la nuit même où Jésus fut trahi, il prit non seulement le pain sans levain, mais aussi la coupe contenant le qu'il bénit et donna à ses disciples. Il leur demanda d'en boire en mémoire de son sang, qui serait soupe versée pour les péchés du monde. Par Jésus voulait dire le jus de raisin. Raisin est sans doute le fruit le plus répandu dans le monde. Jésus, en se servant du raisin, choisit un fruit très connu à travers le monde, pour symboliser son sang dans le repas saint. Par sa participation à la Sainte Cène chaque dimanche, le chrétien témoigne sa reconnaissance envers le Christ, qui accepta de mourir à sa place, pour le péché, manqué volontairement à cette réunion du premier jour de la semaine, Actes des Apôtres 20, 7, indique chez le chrétien l'absence d'un esprit de reconnaissance. Le jus de raisin peut être trouvé presque partout dans le monde. Mais, si vous n'arrivez pas à vous en procurer en bouteille, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit de presser une, ou plusieurs, grappes de raisin rouge dans un récipient. Pendant les vendanges, une quantité suffisante pour toute l'année peut en être préparée et conservée en bouteille par la stérilisation. Le pourrait à la rigueur être préparé en jetant une poignée de raisin rouge sec dans de l'eau bouillante. Le jus ainsi obtenu pourra être utilisé pour le repas du Seigneur. Maintenant, avec cet aperçu selon les Écritures, vous pouvez commencer chez vous une assemblée de chrétiens. À noter, si l'Église du Christ n'existe pas dans votre ville ou village, vous devriez en commencer une, soit chez vous, soit dans un autre local plus accessible et plus spacieux. Si l'Église selon sa vraie nature biblique existe déjà près de chez vous, il serait peut-être préférable de ne pas en commencer une autre, mais de se réunir et travailler avec celle-là. Mais il faut faire bien attention quant aux associations religieuses qui affirment se fonder sur le Christ, mais qui ne respectent pas sa parole ou ne suivent pas le modèle qu'il nous donne. 11 Jean 9 à 11. Une fois baptisé pour la rémission des péchés, si vous avez pu instruire et baptiser d'autres personnes, une heure devrait être fixée. Le dimanche pour votre réunion du culte. L'Église peut très bien se réunir au début chez vous, ou dans un autre local. On chantera des cantiques, priera au nom du Christ, choisira un passage biblique pour le lire et le commenter à ceux qui sont présents. Puis la Sainte Cène, où le repas du Seigneur sera célébré. On rendra grâce pour le pain et ce qu'il représente, puis on le rompra et le distribuera aux autres baptisés présents. Ensuite, on rendra grâce pour le fruit de la vigne, avant de le passer aux membres présents, pour que chacun en boive quelques gouttes. Plusieurs prières peuvent être prononcées pendant le culte. À noter, dans une réunion de chrétiens mixtes, ce sont les hommes qui prient en haute voix, qui enseignent et qui président. 1 Corinthiens 14h 34-35. 1 Timothée 2h 11-15. Ensuite, les offrandes seront recueillies parmi les membres. L'argent ainsi collecté doit servir à la prédication de l'Évangile et aux œuvres de bienfaisance. Une comptabilité exacte doit être tenue et un rapport fait régulièrement à tous les membres de l'Assemblée. Vous devriez vous efforcer de partager l'Évangile avec ceux qui vous entourent. Les premiers chrétiens sont allés partout en annonçant la bonne nouvelle de la parole, Actes des Apôtres 8, 4. Comment l'Église est-elle organisée? Chaque assemblée locale de fidèles est complètement indépendante. Il n'y a jamais d'assemblée qui en domine une autre. Chacune d'elles constitue un ensemble autonome. Il n'existe aucune hiérarchie reliant toutes les assemblées locales. Dans la Bible, l'Église est appelée le par cette image nous voyons que le Christ est Colossiens 1h18, Éphésiens 1h22, chaque chrétien individuellement est 1 Corinthiens 12h20, comme dans un corps naturel, chaque membre a une fonction à remplir dans l'Église. Aucun membre n'est plus important qu'un autre. Chacun a un travail à faire pour que l'Église entière s'édifie et se développe. Mais, n'oublions pas que le Christ est, et qu'ainsi c'est lui qui possède. Matthieu 28, 18. Personne n'a le droit de changer l'organisation de l'Église de quelque manière que ce soit. Seul le Christ aurait un tel pouvoir. Avec la croissance de l'assemblée locale, en nombre et en maturité spirituelle, il viendra un temps où il sera nécessaire de choisir des hommes du milieu de l'assemblée pour servir comme anciens. Ceux-ci doivent être nommés par l'assemblée elle-même. Ils ne peuvent pas se désigner d'eux-mêmes. Ces hommes sont aussi appelés, du fait qu'ils servent comme les bergers du troupeau. Toujours bien entendu sur le plan local. 1 Pierre 5, 1 à 5, Actes des Apôtres 20h17, 28, ce sont eux qui dirigent et surveillent l'assemblée locale. Quand il y a des anciens, évêques, il faut qu'il en soit au moins 2. Philippiens 1, il ne peut y avoir d'évêque, ancien ou pasteur unique dans une assemblée, Actes des Apôtres 14h23, les conditions requises pour être désigné comme ancien, évêque ou pasteur, se trouvent énumérées en 1 Timothée 3, 1 à 7 et Tite 1, 5 à 9. C'est à remarquer que les anciens, évêques ou pasteurs, d'une assemblée locale ne peuvent exercer aucun pouvoir en dehors de leur propre assemblée. L'Église peut exister et fonctionner sans anciens, évêques ou pasteur ou diacre. Au début, c'est nécessairement le cas, car ceux qui remplissent ces fonctions spéciales doivent posséder une grande maturité spirituelle et une certaine expérience. En attendant, les affaires de l'assemblée locale sont gérées par l'ensemble des membres.